La Bible et continuer d'explorer donc ce que la Bible nous dit à propos de la communauté chrétienne, de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'assemblée du peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit voir quand on est rassemblé en tant qu'Église? Et on avait terminé donc la semaine dernière avec le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 12 donc. 1 Corinthiens au chapitre 12, on va poursuivre avec 1 Corinthiens chapitre 13. Et la semaine dernière, Paul avait montré comment la vie nouvelle de l'Esprit de Dieu se manifeste dans les chrétiens et donc dans l'Église par à la fois la diversité des dons qui sont accordés aux uns et aux autres, des dons qu'on met au service du bien de tous. Et en même temps, cette diversité, elle n'est pas une cause de division ou de séparation, mais au contraire, c'est l'unité aussi que le même Esprit qui donne ses dons veut manifester. Donc il y a cette diversité et cette unité. Et on va regarder un petit peu, du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va vivre cette diversité dans l'unité. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dit à la fin du chapitre 12. Il dit, voilà, vous comprenez maintenant qu'il y a tous ces dons-là divers et cette unité produite par le même esprit. Mais je vais vous montrer, en fait, la voie qui surpasse tout, qui est encore plus important que tous ces dons-là. Et il nous dit donc de chercher avant tout à recevoir l'amour, de désirer bien sûr aussi les manifestations puissantes de l'Esprit, surtout celles qui transmettent des messages reçus de Dieu, mais la nature surnaturelle et miraculeuse de l'Église, elle va se voir dans le genre de relation que nous vivons aujourd'hui, demain, ensemble, dans les prochaines semaines, les prochaines années. Est-ce qu'elles sont marquées par l'amour de Dieu? Est-ce que déjà on voit la vie céleste qui se manifeste sur terre dans l'amour et dans la manière dont les chrétiens vivent ensemble? Ou est-ce que c'est encore marqué par la vie terrestre, charnelle et pécheresse, imparfaite? Alors, je voudrais regarder avec vous trois parties dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Les versets 1 à 3, on va voir que, avant tout, l'amour, c'est une question d'identité. Donc, c'est quelque chose qui va puiser des racines très profondes en nous. C'est plus que faire. La question, c'est de savoir qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Puis après, dans les versets 4 à 7, on va voir comment Paul nous définit l'amour. Et peut-être ça va être un choc pour nous que les chrétiens de Corinthe, ben, ils étaient chrétiens, d'accord? Même depuis plusieurs années. Et d'un certain côté, ils ne connaissaient pas encore ce que c'était véritablement l'amour. Et Paul est obligé de leur expliquer. Et puis, on va voir enfin, verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, comment la perspective de l'éternité et du royaume à venir change aussi notre manière de vivre ensemble. Ça va? Alors, je vous invite juste à prier très courtement. Seigneur, tu as promis par ton esprit de nous conduire à Christ, de nous permettre d'entendre la parole de Christ résonner dans notre cœur, notre âme, et ainsi de mieux te connaître toi, notre Père. Seigneur, là, on touche vraiment à quelque chose qui est dans ta nature même, car tu es amour, Dieu est amour. Alors, nous te prions que tu nous aides, tu nous assistes à comprendre ta parole et que tu m'aides à prêcher fidèlement sur ce passage d'1 Corinthiens 13. Au nom de Jésus. Amen. Qui es-tu? Et nous tous ensemble, qui sommes-nous en tant qu'Église? Comme j'ai dit tout à l'heure, aimer, c'est lié à notre identité profonde. C'est pas lié à ce que nous faisons, ou en tout cas c'est plus que ce que nous faisons. Ce n'est pas une question d'image non plus, c'est pas l'image que nous voulons renvoyer de nous-mêmes qui compte. Mais plutôt ce qu'on va voir dans ces versets-là, c'est comment l'image de Dieu est présente en nous. C'est pour cela que nous avons été créés, c'est là que la chute est intervenue, qu'elle a tout brisé, et c'est ça que Jésus-Christ est en train de restaurer par l'Église, l'image de Dieu en nous. Aimer, c'est plus que cocher des cases, hein. Vous pouvez en parler avec votre ami ou avec votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes concerné. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu sais, aujourd'hui j'étais à 90% de ce que j'avais à faire vis-à-vis de toi, ou déjà ce serait pas mal, hein, ou à 60%, c'est quand même plus que la moyenne. Non, on raisonne pas comme ça quand on est en train d'aimer quelqu'un, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul donc nous dit la même chose. On va lire ensemble. Donc chapitre 13 de 1 Corinthiens. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Paul nous dit que si on parle les langues des hommes, et il est en train de faire référence sans doute à ce miracle que vous connaissez de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, vraiment au fondement de l'Église, où les apôtres et les disciples reçoivent ce don d'exprimer les vérités de l'Évangile qui avaient été cachées, qui avaient été pas entièrement dévoilées dans l'Ancien Testament, dans les temps précédents. Ils reçoivent le don de pouvoir l'exprimer maintenant dans toutes les langues du monde. Et c'est vraiment pour signifier que le royaume de Dieu, il est ouvert aux gens de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus. Et on voit ça à la fin, dans Apocalypse, que en effet, le projet de Dieu, il va s'accomplir. Il y aura des Kirghizes devant le temple, devant le trône de Dieu. Il y aura des Algériens devant le trône de Dieu. Il y aura des Malgaches, des Français, il y aura des gens de toutes les nations. Et ce miracle-là, ce don-là, semble s'être perpétué encore. Et aujourd'hui, je pense aussi, on peut le dire, il y a des gens qui sont capables, qui sont doués pour les langues, pour exprimer dans toutes sortes de langages l'Évangile, pour que les gens de toutes les nations puissent l'entendre. Et on va prier spécialement pour Steve et Lucie, n'est-ce pas? Que dans les prochains mois, Dieu encore leur donne cette capacité d'apprendre le français, d'être à l'aise avec le français pour qu'ils puissent, avec nous, être des témoins vibrants et clairs de l'Évangile. Et l'apôtre Paul, il parle aussi, donc, si on est capable de parler ces langues des hommes, et même celles des anges. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il essaie de dire que voilà, si on aurait tout le spectre des langues possibles et inimaginables, celles qu'on connaît, même éventuellement celles qu'on connaîtrait pas, mais qu'on n'a pas l'amour, c'est ça le problème. Si on était capable de choses incroyables, mais qu'on n'a pas l'amour, alors il dit qu'on devient, ça n'apparaît peut-être pas trop dans votre traduction, mais il y a cette idée de processus, on devient rien de plus que des cymbales qui résonnent. C'est ça, rien du tout, du bruit ou du vent. Il y a l'idée de progresser vers un bruit chaotique. D'ailleurs, le bruit, c'est ça. C'est une onde qui est désorganisée, qui est perturbée. Alors que quand vous écoutez une fréquence de violon ou de piano qui joue, si vous voyez un peu, c'est une belle sinusoïdale, là. Et c'est plaisant aux oreilles, ça nous attire. Mais le bruit, c'est pas organisé, c'est pas harmonieux, c'est pas intelligible, ça produit rien, aucune émotion, aucune compréhension. Et peut-être que l'apôtre Paul est en train de faire référence aux idoles muettes du chapitre 12, vers lesquelles on était portés autrefois. Et rappelez-vous, ça c'est autrefois, parce que maintenant, Dieu est intervenu dans notre vie, Jésus est venu, il nous a ramenés à lui, on sert maintenant un Dieu vivant, personnel, qui parle de façon claire et intelligible Dieu qui transmet son amour. Mais si on cherche donc à plutôt la capacité plutôt que l'objectif qui est donné par Dieu pour ces capacités-là, alors nous risquons de ressembler à juste des casseroles qui font du bruit dans la cuisine. On a peut-être reçu un don de Dieu, mais si l'usage qu'on en fait n'est pas marqué par l'amour, alors on ne devient qu'un ustensile qui fait du bruit. Alors que nous avons été créés à l'image de Dieu pour refléter son caractère, pour refléter sa personnalité. Dieu est amour. Dieu parle et fait connaître son amour par sa parole, par son Fils. C'est le Fils qui est la parole du Père et qui le fait connaître. Sa voix est distincte. Elle résonne dans le monde et elle organise le monde et elle produit la vie, tout comme il en était au commencement. Vous vous rappelez Genèse 1, quand il y a le chaos et les ténèbres? Voilà que la voix du Père retentit, et au son de cette voix, en parfait accord avec elle, et donc avec Dieu le Père, on voit le Saint-Esprit même, la troisième personne de la Trinité, qui agit, qui applique cette parole. D'accord? Et le monde prend forme, et il s'ordonne, et la vie est produite. C'est le Dieu vivant et vrai qui nous a créés à son image, et c'est cette ressemblance avec Dieu que le péché est venu obscurcir et briser. De telle sorte que aujourd'hui, si nous sommes livrés à nous-mêmes, notre discours n'a plus de cohérence et ne produit plus la vie. Mais ça, c'était autrefois, rappelez-vous, parce que maintenant nous servons le Dieu vivant et vrai. Et par Jésus-Christ, petit à petit, Dieu est en train de restaurer son image en nous, de telle sorte que notre parole devient de plus en plus claire, de plus en plus en train de glorifier Christ pour que le Père lui-même soit glorifié. C'est l'Esprit-Saint qui nous aide dans tout cela. Et notre parole, quand elle est nourrie par la parole de Dieu, elle ordonne les choses dans notre vie. Elle ordonne les choses dans l'Église. Elle ordonne les choses même dans la sphère du monde. Et ça produit la vie. Alors c'est l'amour pour Dieu qui va produire ça, et l'amour de Dieu en nous qui produit ça. Vous voyez encore verset 2, Paul il continue, dit « Si j'ai le don de prophétie », de nouveau, c'est un don que les Corinthiens mettaient en avant. « Si j'ai un don de prophétie, si j'ai la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes », vous connaissez cette parole de Jésus, hein? Un petit grain de foi et on pourrait transporter des montagnes. Donc si on avait toute cette foi-là pour transporter des montagnes, mais que nous n'avons pas l'amour. Alors là, c'est même pire. Nous ne sommes rien. C'est-à-dire, ça touche vraiment à notre identité profonde. Quel contraste, n'est-ce pas, entre ce tout que Paul répète dans ces versets-là et le rien, au final, que ça produit en nous. Jacques nous avait déjà averti, si vous vous rappelez, l'année dernière, quand on avait vu ça, l'apôtre Jacques. Chapitre 3, verset 10 à 12. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Alors ça dépend de quelle est la source qui est au fond de nous, quelle est notre identité profonde par laquelle sortent les bonnes choses, si nous sommes maintenant en train de servir le Dieu vivant et vrai. Et on reconnaîtra cette source, la beauté de cette source, la douceur de cette source à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et peut-être il faut juste ici préciser une chose, pas en train d'opposer deux choses, d'accord? L'apôtre Paul, il dit, c'est pas la peine de connaître, faut juste aimer. Il n'est pas en train d'opposer, mais il dit que les deux doivent aller ensemble. Et bien sûr, c'est l'amour qui doit diriger tout cela. Avoir une foi bien informée, c'est important pour aimer véritablement l'autre. Aimer va nous faire désirer connaître Dieu et sa parole davantage. Sinon, il y a un problème. Paul à Timothée dit, le but du commandement, par contre, le but de connaître la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est le service de Dieu qui s'exerce dans la foi. Alors, si on n'a pas l'amour, on ne devient qu'un bruit dans ce monde. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien dans notre identité. Et puis verset 3, Paul continue, il dit « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, ou si une autre manière de comprendre ce verset-là, si je livre mon corps jusqu'à pouvoir en tirer fierté, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ça ne me sert à rien à moi, et on peut du coup même légitimement se poser la question, mais est-ce que même je suis en train de servir les autres? Est-ce que véritablement je suis en train de servir Dieu? Si nous faisons les choses sans être en relation avec Dieu, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de ressourcement, il n'y a pas de gloire donnée à Dieu, et ça ne sert à rien, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Jésus aussi a dit ça à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, il y a un coût à payer à la suite de Christ. Mais c'est pas pour chercher son propre intérêt, pas pour accumuler pour soi. Et Jésus continue en disant, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que pourra donner un homme en échange de son âme ? On peut donner son corps, mais pas son âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, ça ne sert à rien. Du coup, on se pose la question, nous, quelle est notre ambition ? Est-ce que dans nos vies, nous manifestons la grâce ? Le fait que Dieu nous a donné gratuitement, de façon imméritée, des dons ? Ou est-ce que nous cherchons à en tirer fierté ? Est-ce que nous cherchons un intérêt dans les choses que Dieu nous a données. Si jamais nous faisions ça, ça aurait d'aucune utilité pour soi, aucune utilité pour le plan de Dieu. Vous voyez, dans ces trois versets, déjà, Paul est en train de nous dire, l'amour, c'est une question d'identité. Ça va très profond dans notre âme, dans notre cœur. Alors, il nous faut regarder à Christ, n'est-ce pas, ce matin, qui n'a pas fait les choses, qui n'a pas agi dans ce monde sous la pression des autres, sous le regard des autres pour en tirer profit, pour en tirer fierté. Vous vous rappelez cette parole, et d'ailleurs les pharisiens l'avaient bien compris. Ils ont dit, on sait que tu fais acception de personnes, que toi tu ne distingues pas les personnes, tu es assez libre en toi-même. C'est ça que nous désirons aussi, libre d'aimer comme Jésus a aimé. Jésus non plus n'a pas refusé de faire des choses sous la pression des autres ou le regard des autres. Par exemple, en guérissant un jour du sabbat ou en s'approchant d'un lépreux, ce qui était vraiment horrible, on ne fait pas ça. Quel amour pour Jésus, n'est-ce pas ? De laisser tomber toute cette pression-là, de ne pas tenir compte du regard des autres sur soi et d'aller vers ces lépreux pour guérir. Ou s'approcher d'une femme samaritaine ou d'un officier romain, l'occupant du pays. Jésus, en toute chose, n'est-ce pas, n'a pas cherché sa propre gloire. Il a cherché à rendre gloire au Père. Il a fait ce que son Père lui a dit de faire. Et ce qu'il a vu le Père faire, il l'a fait pareillement. En tant que disciple de Christ, alors nous devons nous aussi chercher à ancrer notre identité en Christ comme disciple, pour lui rendre gloire, lui ressembler. Tout cela en étant rendu capable par l'Esprit Saint de glorifier alors Christ et puis le Père. C'est comme cela que le fait que nous sommes des fils et des filles de notre Père Céleste va se manifester. Et alors, c'est aussi comme cela que de façon évidente, on va se retrouver les uns les autres comme unis par ce lien filial, comme enfants de Dieu. C'est notre amour envers les frères et sœurs de l'Église, plus que la pratique de tel ou tel don qui va réellement montrer au monde que nous sommes enfants de Dieu. C'est à l'amour que nous manifestons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous et qu'ils vont tomber à genoux devant Christ pour dire « Waouh, ce que Christ a fait, c'est magnifique. Je veux désire ça aussi, je veux ça. Je veux entrer dans cette communion. » L'amour, c'est une question d'identité. Et notre identité, il faut la chercher, la cultiver en Jésus-Christ. Regardez avec moi versets 4 à 7, parce que Paul, quand il a expliqué ça, il doit aussi être un petit peu plus concret. Et donc, il commence à définir pour les Corinthiens ce que c'est l'amour. Pas parce qu'il est pris d'un désir soudain de faire de la poésie, mais parce que les Corinthiens n'avaient pas compris encore de quoi il s'agissait. Paul doit définir l'amour parce que les Corinthiens ne vivaient pas cet amour-là. Ça nous choque, mais on ne devrait pas être surpris, parce que pour nous, c'est déjà tellement difficile aussi de vivre de ce même amour. Et bien qu'il soit régulièrement lu à l'occasion des mariages, le contexte de ce passage, c'est en fait les relations entre les membres de l'Église. Ce passage concerne l'enseignement pour des chrétiens, pour une Église chrétienne. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Ils étaient à la recherche des expériences exaltantes, d'actes ponctuels remarquables, étonnants, qui frappaient le regard. Mais l'apôtre Paul replace la vie chrétienne dans la perspective du long terme. La perspective du long terme et du quotidien. Dans des petites choses même, où l'amour doit et peut se manifester. Alors, lisez avec moi, chapitre 13, verset 4, par exemple. L'amour est patient. Il prend patience. Comme Dieu prend patience avec ce monde depuis Genèse 3. Est-ce que vous réalisez à quel point Dieu est patient? Lui qui est amour, à quel point sa patience se manifeste? À quel point il était patient avec Israël dans les temps anciens? À quel point il est encore patient avec nous, l'Église, aujourd'hui? Il est plein de bonté, cet amour. Alors si on veut aimer, bien sûr, ça nous concerne, nous. On n'est pas juste en train de parler d'un concept. L'amour est plein de bonté. Alors c'est-à-dire, si nous, on veut aimer, on va manifester cette bonté. De la même manière que ces caractéristiques de Dieu, Dieu lui-même, vis-à-vis de son peuple, exprime une bonté activement. Dieu se met au service de son peuple. N'est-ce pas incroyable? Le Dieu de l'univers qu'on a mentionné au début, qui a tout fait, est en train de nous servir, de nous aimer, de nous aider, de nous soutenir. Quelle bonté de la part de Dieu. Mais au chapitre 11 de la lettre aux Corinthiens, nous voyons que les membres de l'église de Corinthe, les plus riches, négligeaient les plus pauvres. Et au lieu de partager leurs biens, ils mettaient en avant par leur comportement et leur attitude une différence. Oh, nous sommes la classe. Et vous êtes les deuxièmes. Vous êtes en second. Ou au moins, s'ils faisaient pas ça, au minimum, il y avait de l'indifférence vis-à-vis des autres. Ok, moi, j'ai plein de choses à manger. Toi, tu peux crever de faim à côté de moi, mais ça me dérange pas. Ça, c'est pas la bonté, n'est-ce pas? Donc, ils n'étaient pas en train de manifester la bonté et la patience des enfants d'un Dieu patient et bon. Et de nouveau, vous voyez, il y avait une rupture dans l'identité de Dieu qui a appelé l'église de Corinthe et la manière dont les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe agissaient. Alors, nous, ici à Cavaillon, enseignés par ce passage, on veut aussi recoller les morceaux. On veut être sûr que notre identité profonde, elle se voit dans notre manière d'être ensemble. Toujours au verset 4, Paul continue, il dit « L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. » Ça veut dire il ne fanfaronne pas, il ne se met pas en avant, n'est-ce pas? C'est l'idée de ne pas faire le malin, si vous me permettez l'expression. De ne pas chercher à briller devant les autres en le faisant bien remarquer à tous que quand même, on a bien servi là. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Problème à Corinthe, il y avait des factions, il y avait des petits groupes qui s'étaient installés. Les uns les autres se divisaient en clans. Il y en avait qui étaient pour Paul, il y en a qui étaient pour Apollos, il y en a d'autres qui étaient se croyaient encore plus spirituels que les autres. Ils disaient, nous, on est pour Christ quand même. Et en fait, c'était ironique parce que même dans leur manière de dire, nous, on est pour Christ, c'était pas rassembleur, mais c'était pour créer une division. Ils se mettaient à part des autres. Et Paul dit, non, ça va pas, cette manière de faire. Et il y avait de l'orgueil, du coup, qui se manifestait là. Il dit au chapitre 4, verset 6, « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Ils étaient fiers aussi de laisser une situation d'immoralité sexuelle avoir cours dans l'Église. On voit ça au chapitre 5, quand je parle d'immoralité sexuelle, c'est-à-dire une sexualité ou des types de relations qui sortent du cadre du mariage voulu par Dieu. Alors vous pouvez regarder, si vous voulez mieux comprendre quel est le cadre du mariage voulu par Dieu au chapitre 7, et cette situation-là expliquée au chapitre 5. Et cette situation d'immoralité s'est développée, elle était connue chez un membre de l'Église sans que les autres chrétiens ne réagissent. Ou alors leur réaction était mauvaise, certains se réjouissaient même de la soi-disant liberté que l'on aurait en crise de péché, puisque de toute façon il y a la grâce qui surabonde. Et cette fierté-là, Paul nous dit, c'est pas l'amour. Verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. Dans d'autres manières d'exprimer ça, peut-être c'est on ne se comporte pas de manière déplacée, en montrant qu'on a peu de considération pour son prochain dans ses paroles ou ses attitudes. Ce que Paul veut exprimer ici, c'est d'agir sans s'inquiéter de savoir si un frère ou une sœur risque d'être blessé. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est l'égoïsme ou l'égocentrisme qui est en vue ici par Paul, que Paul dénonce, que Paul dit non, l'amour c'est pas compatible avec ça. C'est pas compatible avec moi je et moi d'abord. L'amour ne s'irrite pas. C'est question de la susceptibilité, de la réaction qu'on peut avoir si peut-être on se sent trop souvent agressé par les autres et qu'on réagit très vite. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne manigance pas non plus ce mal-là. Il ne cherche pas à magouiller, à organiser ça. Et il ne tient pas des comptes. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, du mal ou du péché, mais il se réjouit de la vérité. Ce qui exclut toute forme de mensonge dans nos paroles et toute duplicité dans notre attitude. Être d'un certain visage comme ça, mais à l'intérieur ou par ailleurs se comporter d'une autre manière. Problème à Corinthe. Les membres de cette église allaient accuser leurs frères ou sœurs devant les tribunaux de la ville plutôt que de chercher à régler dans l'amour, dans la paix, les différends qu'il pouvait y avoir. Jérémie sort du parking de l'église et raye l'aile de la voiture de Jérôme. Et voilà Jérôme qui part au tribunal et Jérémie qui minimise le problème et nie sa responsabilité. Vous voyez, c'est le genre de situation qu'il pouvait y avoir à Corinthe. Alors Paul est obligé d'expliquer aux Corinthiens, aux chrétiens, qui sont chrétiens même depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça veut dire de manifester, de vivre cet amour-là. Et puis il termine au verset 7 pour cette partie-là. Il dit que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça fait un peu référence à ces trois vertus, comme on appelle ça, de la vie chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour, que Paul va rappeler encore plus tard dans le passage. Quand il dit « il pardonne tout », il faut comprendre ça en toute occasion, n'est-ce pas ? Il faut qu'on comprenne que « on pardonne tout », ça veut dire quoi dans le contexte de la révélation biblique en entier ? Et il y a un côté où Paul, justement, a repris les Corinthiens parce qu'il laissait quelqu'un vivre dans le péché de manière visible sans le reprendre. Et donc, ils avaient excusé un peu trop facilement un comportement qui n'était pas digne du Seigneur. Donc en toutes circonstances par contre, et on lit ça dans la suite, surtout dans la lettre de 2 Corinthiens, cette personne-là, on comprend la suite de l'histoire, elle s'est repentie, elle est revenue vers l'Église en demandant pardon, et alors Paul encourage les frères et sœurs de l'Église à Corinthe de dire « mais accueillez cette personne-là, ne lui faites pas porter maintenant au-delà de sa repentance le poids de son péché passé. » Vous voyez ? L'amour en toute occasion est disponible. Si quelqu'un arrive, demande pardon, il va pardonner. Il croit tout, il espère tout même, il attend en toute occasion ce genre de démarche-là. Dieu est amour, il tient compte du péché, pardonne pas le péché sans que ça passe par que ce péché soit couvert. Mais en même temps, aucune faute n'est trop grave qu'elle ne puisse être confessée à Dieu et que Dieu ne veuille pas pardonner grâce à l'œuvre de Christ. Vous voyez la différence ? Donc c'est ça que Paul est en train d'expliquer. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'était le problème des Corinthiens. Paul y répond. Alors on doit réfléchir, nous aussi, l'Église de Cavaillon. Où est-ce qu'on en est dans toutes ces relations ? Est-ce qu'on a bien compris l'amour de cette manière-là ? Et peut-être on devrait prier encore le Seigneur, n'est-ce pas, de nous aider à vivre de cet amour-là, à mieux comprendre notre identité, notre rapport avec Dieu lui-même, qui est amour, et comment ça peut se manifester entre nous. Et on peut s'encourager, on devrait s'encourager, n'est-ce pas, dans ce sens-là, pour que l'Église ici à Carvillon soit une communauté distincte, où on ne retrouve pas, ou pas autant, les égoïsmes, les manœuvres, ou les politiques, ou les esprits de faction qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Alors c'est possible, ça c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas, parce que l'amour est déversé dans nos cœurs par Dieu lui-même. Dieu est en train de nous modeler, en train de nous transformer. Plus nous sommes en relation avec lui, plus cet amour-là va être visible parmi nous. Et Paul, alors, nous invite à avoir une perspective aussi à plus long terme, qui va nous soutenir dans cette démarche-là. Parce que avoir la perspective de l'éternité nous aide à mettre les bonnes priorités dans nos relations, dans l'Église. Voyez ça avec moi, versets 8 à 12. L'exercice des dons, c'est une bonne chose dans l'Église. C'est voulu par Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait ces cadeaux-là à son peuple. Dieu distribue des dons. On doit se réjouir, on doit chercher à exercer ses dons. D'accord? On doit désirer ça, on doit prier que les uns les autres, on puisse discerner quels sont nos dons et nous encourager dans tout cela. Mais l'amour pour Dieu et les uns pour les autres est le cadre éternel dans lequel on va être amené à servir. Et ça, ça ne bougera jamais, ça ne changera jamais. Quand on sera dans nos corps glorifiés, il y aura certainement tout un tas de changements qui vont s'opérer. Et je sais pas, on va continuer dans le principe à se servir les uns les autres, à s'édifier les uns les autres, à dire les uns aux autres, regarde Christ est magnifique, regarde l'œuvre de Dieu pour nous, regarde sa bonté pour nous. Ça, on va le faire pour l'éternité. On va se réjouir dans l'amour que Dieu nous a manifesté. Mais je sais pas si les dons que nous avons aujourd'hui vont continuer exactement de la même manière dans l'éternité. Si un monsieur, par exemple, comme John Piper, prêche super bien, est-ce que ce sera de la même manière qu'il va célébrer l'évangile et la bonté de Dieu dans l'éternité? Je ne sais pas. Si Bernardo joue bien de la musique, est-ce que ça se poursuivra de la même manière dans l'éternité? Peut-être, peut-être pas. Mais par contre, son amour et sa manière de nous encourager à exalter Dieu et à louer Dieu, Ça va rester, parce que cet amour-là, c'est ça qui est éternel. Une chose est sûre, l'amour gardera sa place centrale dans le peuple de Dieu. C'est ce qui caractérise depuis toute l'éternité passée, et pour toute l'éternité à venir, les relations dans le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, de la même manière, dans l'Église restaurée à l'image de Dieu, ça va être ce qui va se manifester encore pour toute l'éternité à venir. Et ça commence aujourd'hui, c'est magnifique. L'apôtre Paul est toujours en train de reprendre les Corinthiens qui avaient élevé certains dons au-dessus des autres et il leur donne cette perspective-là pour qu'ils aient un peu plus d'humilité par rapport à leurs dons et qu'ils mettent les bonnes priorités. Il dit que les messages des prophètes, ils seront abolis. Alors, il y a de l'intérêt aujourd'hui, il y a ce don de prophétie qui est donné à l'Église, mais un jour, il va cesser. Il y a le don des langues qui est là aujourd'hui, qui est donné à l'Église, qui est une bonne chose, ça vient de Dieu et on doit chercher ça, mais en même temps, en ayant conscience qu'à un moment, cela va s'arrêter. Parce que nous connaissons partiellement. Et quand on parle dans ce monde-ci, ça va toujours être marqué par une sorte d'imperfection. Il n'y a pas de problème parce que Dieu souverainement utilise tout cela et fait quand même sa volonté, mais ça reste marqué par notre nature limitée, pécheresse. Mais quand viendra l'accomplissement, nous dit l'apôtre Paul au verset 10, ce qui est partiel sera aboli. Alors dès maintenant, nous voulons grandir, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas rester au stade d'enfant, mais grandir en maturité. Nous voulons de plus en plus refléter Christ. Et Paul utilise cette image du miroir. Si aujourd'hui nous ne voyons que comme au travers d'un miroir. On voit qu'un reflet, n'est-ce pas? Et en plus, depuis Genèse 3, ce miroir, il n'est pas tout lisse. Il y a des, Il a été brisé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir regarder dans une vitre brisée. Alors vous avez votre nez qui est ici, un œil là, le menton qui est en haut, les cheveux qui sont en bas, parce que les reflets sont distordus, n'est-ce pas? Et depuis que nous sommes devenus chrétiens, Christ est à l'œuvre pour restaurer ce miroir-là, pour refléter la beauté de Dieu dans notre vie. Mais même restaurés, nous restons humbles, parce que c'est encore partiel, cette œuvre de Dieu. Elle est en train de progresser, on doit se réjouir, mais ça restera partiel jusqu'au jour où nous serons face à face alors avec Dieu. Alors si déjà on peut regarder une photo ou un tableau ou regarder dans un miroir et dire « Waouh, ça c'est beau !» Qu'est-ce que ce sera quand nous serons face à face? Quand vous prenez une photo, il y a forcément un cadre. Quand vous regardez dans un miroir, il y a un cadre, il y a des limites, n'est-ce pas? Et quand vous avez le champ, il n'y a rien qui obstrue le regard, alors vous avez une vision grandiose et claire, complète. Et c'est ça que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe et à nous aussi ce matin. Il faut qu'on ait cette perspective du royaume éternel dans l'exercice de nos dons, dans notre manière de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Est-ce que ça résonne en vous cette phrase ? Un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il y a une manière dont Dieu nous connaît, qui nous dépasse même nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas à la mesure ou à la hauteur de la manière dont Dieu nous connaît lui-même. Et un jour, nous connaîtrons Dieu de cette même manière. Il n'y aura plus la médiation d'une prédication de la parole. Il n'y aura plus la médiation peut-être des chants qui nous élèvent à réfléchir, à penser à l'Évangile. On verra Dieu face à face. Ce sera évident devant nos yeux. La bonté, l'amour, de Dieu manifesté pour nous et pour tous nos frères et sœurs qui seront juste à nos côtés en train de voir la même chose. Alors laissez-moi conclure en posant quelques questions. Est-ce que la pratique de nos dons, notre service dans l'Église est marquée par l'amour? Oui, je crois. On veut continuer, on veut progresser, n'est-ce pas? On veut encore développer davantage cet amour. On veut aussi davantage être à l'écoute et conscient que Dieu a donné des dons les uns aux autres et nous encourager à rentrer dans les ministères, dans les services que Dieu nous donne. Et il ne s'agit pas toujours de choses éclatantes et waouh qui nous scotchent et qui on est ébahi devant ponctuellement ce que l'un ou l'autre peut faire. Mais c'est aussi des choses que on doit vivre au quotidien pendant des années. Et qui vont aller jusque dans l'éternité. C'est ça qui est valable. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Les dons spirituels que nous avons reçus manifestent-ils alors la vie nouvelle de l'Esprit de Dieu en nous? Ou est-ce que nous les utilisons comme un tremplin pour nous mettre en avant nous-mêmes et mettre nos ambitions en avant? Je ne crois pas que c'est ça que nous faisons. Mais il faut qu'on se méfie du lion tapis dans notre cœur qui, à la moindre occasion, voudrait saisir une occasion de se manifester. Laissons-le loin de nous et plutôt continuons de chercher l'amour de Dieu. Les dons de l'Esprit doivent se vivre avec le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? Sinon, il y a incohérence. Le même Esprit ne peut pas donner des dons et après ne pas nous donner en même temps l'attitude qui accompagne ces dons, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que parfois on peut être tenté de élever nos dons au-dessus du but pour lequel ils nous ont été donnés? Ça, c'est un peu subtil pour nous, n'est-ce pas, en tant que chrétiens? Des fois, parce que c'est légitime, on a reçu ce don, on doit le mettre en œuvre. C'est une bonne chose, c'est voulu par Dieu. Mais des fois, on peut être tenté d'élever notre don en lui-même au-dessus de l'objectif pour lequel Dieu l'a donné à l'Église. Et vous rappelez, cet objectif, c'est le bien de tous. C'est la gloire de Christ dans l'Église. C'est manifester la vie nouvelle. L'objectif, c'est servir Dieu et servir notre prochain, en particulier nos frères et nos sœurs dans la foi. Alors si notre don est déconnecté de l'amour, il ne produit pas ce qu'il doit produire. Mais avec l'amour, alors il édifie, il construit l'Église, il renforce l'Église. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Sans amour, les dons ne servent à rien. Est-ce que nous voulons passer de l'enfance à l'âge adulte dans notre façon de parler, de raisonner, de penser? Je vous invite encore dans les prochains jours à demander à Dieu de nous faire grandir en maturité et encourageons-nous encore dans ce sens. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Trois façons de manifester que nous sommes enfants de Dieu. Elles sont chacune importantes, la foi, l'espérance, cette perspective éternelle dont Paul a parlé, l'amour. Elles sont indissociables et en même temps chacune est particulière. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour parce que Dieu est amour.